La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Comment conquérir le cœur d'un facho ? Alors, si vous vous posez la question, je vous conseille de revoir le dernier discours de François Bayrou, déclamé devant l'Assemblée nationale, c'était mardi dernier. Allez à la minute 53 et vous allez voir, c'est riche en enseignements. Alors, d'abord, il faut appâter le facho. Pour ça, François Bayrou, il démarre par un tranquille « L'immigration est une question de proportion ». Ouh, bien joué. Les députés RN, en pleine digestion, dressent alors l'oreille. Là, Bayrou lance la baballe. Que 30 familles s'installent dans un village pyrénéen ou cévenol et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Bravo François, populisme débile basé sur des clichés racistes, normalisant la xénophobie avec une couche de fake news, je précise ici n'avoir trouvé aucune trace de soi-disant protestations de villageois pyrénéens contre l'arrivée de dizaines de familles étrangères. Mais les députés RN n'applaudissent toujours pas, ils ne sont pas dupes. Alors François décide de dégainer l'artillerie lourde. Si Paris intramuros c'était Mayotte, il y aurait 500 000 illégaux en bidonville à Paris. Oui, ça y est François, on y est. Au premier rang, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, il kiffe tellement qu'il hoche la tête et lâche son premier sourire. Il se dit même que dans un cimetière, sous la pierre tombale portant l'inscription Jean-Marie Le Pen, on entend une voix sourde brailler la Marseillaise. Et on fait quoi quand des gens vivent dans des bidonvilles ? François Bayrou propose la mise en place de politiques de contrôle, de régulation et de retour dans les pays d'origine. Il lui suffisait juste de conclure par « Si vous êtes pauvre, soyez pauvre chez vous » et le tour était joué. Standing ovation des députés RN, Marine Le Pen descend des gradins pour faire un câlin à François. Néanmoins, les députés du RN n'ont pas applaudi la diatribe anti-immigration de François Bayrou. Au mieux a-t-il eu des applaudissements du centre et des républicains ? Non, si vous voulez conquérir le cœur d'un vrai gros facho, demandez à Donald Trump. Hier, c'était son second premier jour de nouveau président des États-Unis. Il n'a pas fait les choses à moitié, Donald, devant un parterre de ponte du nationalisme mondial. Depuis le géant hongrois Viktor Orban au petit Éric Zemmour, le nouveau président américain a martelé ceci. Je vais déclarer l'état d'urgence à notre frontière sud avec le Mexique. Toutes les entrées illégales seront immédiatement stoppées et nous commencerons à renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels là d'où ils viennent. Je vais envoyer des troupes à la frontière sud pour repousser l'invasion désastreuse de notre pays. Voilà, la semaine dernière, notre chef du gouvernement était voûté, les yeux scotchés sur sa feuille, se perdant dans ses notes en susurrant au micro « Je suis un néophyte ». Hier, Trump avait les yeux bien détachés de ses notes, était à deux doigts de parler d'un système ferroviaire direction la Pologne. D'ailleurs, son soutien sans faille Elon Musk était lui aussi à deux doigts de faire deux saluts nazis. Oups. Et puis, dans une mise en scène à faire chialer d'émotion Joseph Goebbels, Donald Trump s'est assis à une table pour signer de premiers décrets. Par exemple, l'un d'entre eux met hors d'état de fonctionnement une plateforme de demande d'asile. Des réfugiés pouvaient ainsi lire ce matin sur la plateforme. Les rendez-vous existants ont été annulés. Vous êtes sur le 93.9 et vous écoutez la très en colère Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et donc bienvenue dans cette nouvelle matinale de 19h. On est ensemble en direct jusqu'à 20h. Au programme ce soir, nous parlons des fractures révélées par les incendies de Los Angeles avec Clara Aubonnet, doctorante à l'IFG. On part ensuite à côté de Barbès dans un collège de la Goutte d'Or avec l'interview d'Hélène Milano, réalisatrice du documentaire Château Rouge. Et l'émission se poursuit en spectacle avec le zoom sur le spectacle La Nuit se lève. Puis on termine avec la chronique de Juliette. Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Vous écoutez Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et tout de suite, l'interview avec Maïwenn. Bonsoir Maïwenn.
Bonsoir Guillaume.
Alors...
Tu me lances, j'y vais toute seule.
Je te lance, Maïwenn, vas-y, lance-toi.
Eh bien, je me lance. Depuis le 7 janvier, la ville de Los Angeles est prise dans les flammes. Vous avez pu tous et toutes voir les images sur les réseaux sociaux des maisons de stars en cendres. Alors, personnellement, je n'ai pas pleuré pour Paris Hilton. En revanche, pour en parler, j'ai décidé d'inviter une spécialiste du sujet, puisque ce soir, on reçoit Clara Aubonnet, qui est en thèse à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8 et qui travaille sur les feux de forêt transfrontaliers dans le nord-ouest américain, tiens-toi bien, Guillaume, entre la Colombie-Britannique au Canada et l'État de Washington aux États-Unis. Bonsoir, Clara.
Salut Maïwenn.
Tu vas bien?
Oui, ça va, et toi?
Ça va. Alors, j'ai une première question un peu peut-être simple, je ne sais pas, pour les auditeurs et auditrices. Le feu aurait donc a démarré début janvier, c'est un peu flou. Est-ce que tu saurais expliquer comment le feu a démarré, résumer un peu les événements?
Oui, oui, bien sûr. Alors du coup, le feu a démarré, le premier feu a démarré le mardi 7 janvier, le matin, heure locale, et c'était et il s'est déclaré dans le quartier de Pacific Palisades, qui est un quartier assez huppé, avec pas mal de cadres, des maisons, des grandes villas très riches. Et tout, en presque deux jours après, le quartier a été détruit et le feu continue de est toujours en train de brûler aujourd'hui. Et le lendemain, le mercredi 8 janvier, il y a un nouvel incendie qui est le feu Eaton, qui s'est déclaré plus vers les montagnes cette fois-ci, au niveau de Altadena. Et en fait, Altadena, c'est pas dans la ville de Los Angeles. Donc ça, déjà, ça fait deux différences. En fait, c'est deux feux, c'est les deux gros feux dont on parle le plus dans les médias en ce moment. D'ailleurs, je voulais apporter une petite précision parce qu'on parle souvent de méga-feux, mais je pense qu'il faut avoir un regard assez critique sur ce terme parce que c'est un terme déjà avant d'être utilisé dans la recherche, dans les sciences, qui a été beaucoup utilisé dans les médias 20 ans avant pour décrire des choses très sensationnelles, avec beaucoup d'émotions, et en fait qui ne décrit pas du tout dans quel contexte s'inscrit le feu. Est-ce que c'est un feu de forêt, un feu de structure, un feu périurbain comme il se passe maintenant, dans quel contexte historique, quel contexte géographique, à part du coup la superficie, enfin, le terme de méga qui parle de quelque chose de grand. Sauf qu'en fait un feu très grand ne veut pas forcément dire un feu très destructeur, ça peut être aussi bénéfique. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une sorte de clé de compréhension pour savoir ce que veut dire un méga-feu. Et donc là, on parle de feux qui arrivent dans des zones périurbaines, à Altadena et dans le quartier de Pacific Palisades. Et il y a eu d'autres petits incendies en fait, qui se sont déclarés dans le comté de Los Angeles, dans le comté de Ventura. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un nouveau feu vers le comté de San Diego qui s'est déclenché à cause de l'augmentation des vents. Et donc il faut surtout en fait se renseigner sur les sites officiels, par exemple d'agences de foresterie, d'agences de réponse au feu comme Cal Fire, qui est l'agence californienne.
Et alors pour comprendre aussi ce feu, qu'est-ce qui fait alors on parle beaucoup voilà de l'intensité, enfin de et vous l'avez mentionné donc même le fait qu'il y ait eu deux grands incendies dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que il y a eu ces feux spectaculaires à Los Angeles? Est-ce que pourquoi ça n'a pas eu lieu en France? Enfin, qu'est-ce qui est différent à Los Angeles de la France?
Oui, bah moi je peux surtout parler de la Californie parce que la et donc par rapport à la Californie en soi, pourquoi ça a pris autant d'ampleur? En tout cas, à Los Angeles, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est les conditions météorologiques et le climat qui étaient vraiment propices à ces feux-là. Ça faisait plusieurs semaines en fait, qu'il y avait des avertissements des différentes agences météorologiques qui disaient bah, « ça va arriver parce que l'hiver dernier, il y a eu énormément de pluie dans la région de Los Angeles, ce qui a fait qu'il y a eu un essor au niveau de la végétation, sauf qu'à partir de l'hiver et jusqu'à juin-juillet, il n'y a plus de pluie du tout. Donc toute cette végétation qui était luxuriante, elle s'est asséchée et ça a fait que c'est devenu des combustibles parfaits pour que ça prenne flamme, que ça prenne feu. et en plus, les températures sont plus élevées que la moyenne, donc 20 degrés au lieu de 14. Et avec tout ça, il y a les vents chauds de Santa Ana. Donc Santa Ana, ça vient en fait du Nevada, de l'Utah, des régions désertiques. C'est assez connu qu'il y ait ces vents chauds tous les hivers qui viennent vers Los Angeles. Donc ce n'est pas nouveau. Mais en fait, depuis 2011, là, c'est un record qu'il y a eu au niveau des bourrasques de vent qui étaient très, très élevées et qui ont fait que ces feux sont devenus très, très vite à grande superficie et se sont très vite en fait, étendus de maison en maison. À l'intérieur de certains quartiers ou de Altadena.
Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper, justement, des vents, ça se... On a des météorologues, ces personnes, ils n'ont pas pu anticiper le fait que ça allait se transformer en grand feu.
Justement, il y a eu des avertissements. C'est une saison... Enfin, la Californie, elle connaît des très grands feux depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que quand on... C'est intéressant, enfin, j'ai lu beaucoup d'articles de presse avant de venir ici et ça ressort souvent quand même des personnes qui disent bah, on n'aurait pas pu prévoir ça, ce n'est jamais arrivé avant, mais il s'avère que si, malheureusement, depuis plusieurs années, c'est arrivé en 2017 à Santa Rosa, c'est arrivé en 2018 pour la ville de Paradise qui a été complètement rasée. Donc, en fait, ce qui aurait pu aussi être on va dire anticipé, c'est l'aménagement de la ville. Il y a certains quartiers qui sont très à risque, qui sont très à risque concernant le risque de départ de feu, notamment Pacific Palisades. D'ailleurs, dès 1920, il y a un duo de frères architectes qui sont allés à Los Angeles pour faire des études et qui ont dit... En fait, Los Angeles, si les gens veulent continuer de vivre là-bas, il faut qu'ils vivent dans des cabanes avec très peu de biens, parce que ça va brûler.
Et alors justement, tu dis que le quartier de Pacific Palisades, par exemple, c'est un quartier qui était particulièrement propice au feu. Qu'est-ce qui fait dans l'aménagement que c'est propice au feu ? Enfin, comment on explique ça ?
Oui. par exemple, j'encourage tout le monde déjà à juste regarder sur Google Maps... Avec la vision, on voit très bien l'alignement des maisons. On peut voir que c'est très dense, que toutes les maisons sont... Enfin, c'est vraiment un exemple typique du système d'aménagement capitaliste américain de la ville. Tout est très dense. Aussi, c'est aligné avec le sens du vent, ce qui accélère en fait la propagation du feu et des braises. Ça fait un effet domino de maison en maison. C'est pas forcément les arbres en fait, qui ont mis feu... à ces quartiers, c'est vraiment de maison en maison et certaines plantes ornementales aussi comme les eucalyptus, les lauriers, les pins qui sont très très proches aussi des bâtiments.
Bâtiments du coup qui sont en matière inflammable parce que si tout est en béton, c'est...
Non, oui, c'est... Non, c'est en matière inflammable, c'est en bois. Il y a 80... Enfin, il faudrait vérifier en quelle année c'était, mais environ dans cette région-là, 90% des maisons sont construites en bois, parce que en plus elles sont assez vieilles, elles ont été construites avec des codes de construction très laxistes qui se sont un peu durcis depuis concernant justement les risques de feu, mais c'est pas du tout comme nous en Europe où on s'est construit en pierre, ou alors des fois c'est en ciment, où ça va être moins inflammable. Et je peux rajouter aussi qu'il n'y a pas seulement les bâtiments, il y a aussi les infrastructures, par exemple, électriques, tout autour, qui sont déjà à l'extérieur et qui sont sur des poteaux en bois. Donc, en fait, partout, il y a des poteaux en bois avec des fils électriques et donc, donc le courant est coupé. Donc, ça se passe pas très bien.
Et alors, justement, moi, j'avais une question à propos de la gestion du feu. Tu l'as dit tout à l'heure. Il n'y a pas un seul feu. Enfin, on peut avoir l'image d'un feu qui dévaste Los Angeles, mais en fait, il y en a plusieurs, dont certains qui sont en dehors du comté de Los Angeles. Enfin, c'est sur des administrations différentes, si j'ai bien tout compris.
Alors, c'est en dehors de la ville de Los Angeles. C'est un peu compliqué des fois parce que la ville a le même nom que le comté.
D'accord.
Donc, c'est la ville de Los Angeles et le comté de Los Angeles.
Alors, justement, est-ce qu'il y a une gestion différente en fonction de ces différentes entités, est-ce qu'il y a une coopération des pompiers, comment ça se passe?
Oui, totalement. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit aussi que avec ce type de feu, en fait, qui s'enclenche dans des zones périurbaines, hein, c'est pas des feux de forêt, c'est vraiment des feux qui touchent des structures. Ça montre les limites de la profession de pompier dans ces cas-là, parce que il y aurait pu avoir, enfin, il y a certaines études déjà qui ont été faites et des experts sur les feux de forêt qui ont dit qu'il y aurait pu avoir un camion de pompiers par rue. En fait, le résultat aurait été le même, tellement le feu était intense. Et parce que si la stratégie, d'où en revenant là sur cette différence comté-ville, elle est très très fragmentée. C'est un territoire qui est complètement fragmenté, les États-Unis, parce que c'est fédéral. Donc, y a différents États. Et au sein même de l'État de Californie, il y a différents comtés. Et dans ces comtés, il y a des municipalités qui ont des districts, etc. Et donc, par exemple, là, tout à l'heure, je regardais pour le feu de Pacific Palisades, il y a du coup ce qu'on appelle un commandement unifié de différents départements de pompiers, de différentes agences étatiques, locales, fédérales qui vont travailler ensemble. Et elles étaient plus de 18. Enfin, il y a plus de 18 agences qui doivent coopérer. Donc, évidemment, il y en a 4-5 qui sont à la tête. Et pour le Eaton Fire, qui est plus vers les montagnes, en dehors du coup du comté, il y a plus de 29 agences qui doivent coopérer parce que d'un coup, en fait, ça sort de la ville. Donc, c'est plus la ville qui est responsable de ça, mais le comté. Et donc, ça implique en fait des agences au niveau local, étatiques et fédérales qui ont toutes des objectifs différents et des responsabilités différentes.
Clara Aubonnet, alors je rappelle, vous êtes doctorante à l'IFG. Alors on continue de parler des incendies à Los Angeles après une pause musicale. C'est Just For Me de Pink Panthers. I found the street of the house in which she stayed. And the diary's full of your name on every page. Cause I read to my you've fallen in love with me. I'll try and try again one day, you'll see. Your hair's under my pillow, so I sleep. And I'm dreaming of you leaving roses on my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Today I was in my car. I wanted to come and see you from afar. If you turned around and saw me, I would die. I pretend I was a person driving by. Wrote you a song, do you wanna hear it now? Don't bring your friends along to form a crowd. Cause I need to prove I wrote it just for you. What's the need for them when it could be just us two? I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? I'm pleading on my knees, please, 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 please. It's your touch that I need. C'était donc Just For Me de Pink Panthers et on poursuit le Zoom. Vous êtes sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors avec nous, je le rappelle, donc Clara Aubonnet, doctorante à l'IFG. On continue de parler des incendies à Los Angeles. On s'est quitté sur le nombre d'agences qui doivent coopérer pour gérer un énorme incendie. Et alors justement, j'avais une question sur les agences. En préparant cette interview, je suis tombé dans les tréfonds d'Internet et j'ai vu alors qu'en 1995, le chercheur californien Mike Davis établissait une inégalité de traitement contre les incendies entre les quartiers les plus pauvres et les plus riches, en analysant, alors à l'époque, il y avait eu un énorme incendie qui s'était déclenché à Malibu en 93, donc 2 ans avant. Et alors, je me disais, mais c'est quand même pas intuitif, parce que, oui, je comprends qu'avoir des millions de dollars en poche, ça aide pour reconstruire rapidement sa maison, mais qu'avoir des millions de dollars en poche aide à juste faire venir des pompiers pour éteindre un feu, je ne sais pas si c'est ça ce qui se passe, mais je vois pas que... Quel est le lien entre être riche et vite faire éteindre un feu de sa maison ?
Je suis pas sûre de comprendre la question.
La question, c'est en fait, est-ce que voilà, dans les faits concrètement, qu'est-ce qui fait que quand on s'appelle par exemple Paris Hilton, notre maison va peut-être être moins ravagée par l'incendie que si on est une personne lambda avec un revenu moyen ?
Oui, ok. Déjà la maison de cette personne a été brûlée, hein, donc comme
oui,
quoi il
n'y a pas échappé.
Rien, enfin à partir d'un moment ça ne compte plus. Je dirais que les choses qui peuvent avoir une influence, c'est que il y a des personnes à haut revenu qui peuvent se permettre d'employer des pompiers privés, enfin d'entreprises privées. qui peuvent aussi faire beaucoup plus de travaux pour que leur maison, justement, soit moins vulnérable au feu. Par exemple, changer les matériaux, avoir un terrain plus grand et mettre un espace entre sa maison et de la végétation beaucoup plus grand. Mais en fait, il s'avère que tout ça, c'est des fois, ce n'est pas forcément une question d'argent, mais plutôt de mentalité. On peut être très riche et avoir une maison très, très vulnérable au feu parce qu'on va aimer avoir... ses petits buissons très proches de sa maison en bois, un petit chemin en bois, tout en bois en fait pour que ça fasse une sorte d'atmosphère. Et donc là, au bout d'un moment, ça compte plus quoi, s'il y a de l'argent ou non à ce moment-là par rapport à ça. Mais ce que tu disais, désolé sur les inégalités, ça va être quelque chose de très intéressant à regarder pour l'après, de comparer un petit peu... justement, là, je pourrais pas dire parce qu'il n'y a pas assez d'informations, mais en regardant justement la fragmentation même de la ville de Los Angeles entre les différents quartiers à haut revenu, pas forcément haut revenu. Bon, il s'avère que Pacific Palisades, c'est un endroit où il y a des très hauts revenus, c'est une majorité de personnes blanches, cadres, comme je disais, qui ont fait des hautes études, qui ont chacun leur voiture. Mais il n'empêche qu'elles vivent dans un quartier à très haut risque. Donc, à partir de là, tout a brûlé, quoi.
Le feu fait feu de tout bois.
C'est ça.
Alors, Clara, t'as parlé de mentalité tout à l'heure. Et justement, je voulais te poser la question. Les feux de forêt, c'est un phénomène qui est en hausse. Et on doit s'attendre à en voir de plus en plus. Du coup, est-ce qu'on doit opérer un changement de mentalité face à ça? Puisque, a priori, on a du mal à les arrêter. Comment est-ce qu'on peut se préparer?
Déjà, pour le lier un peu au feu de Los Angeles, je dirais qu'il faut faire attention à toute la désinformation et à l'instrumentalisation aussi politique qu'il peut y avoir autour de ces feux-là.
Oui, il y a eu des théories du complot notamment qui sont sorties sur ces feux. J'ai vu que par exemple il y en a qui pensent que c'est lié à l'affaire P. Diddy, qu'ils auraient fait brûler Hollywood pour faire disparaître les preuves, ou encore des fraudes aux assurances, il y a quand même des théories du complot qui circulent et une instrumentalisation politique. Donc justement, tu peux nous parler de ça aussi. Ouais, ça peut être super.
En fait, on cherche toujours un coupable quand il y a ce genre de choses qui arrivent, et c'est très difficile de se dire que... Enfin, souvent, on vise une personne, donc à peine le lendemain du feu, il y a énormément de médias, par exemple, d'extrême droite qui se sont attaqués à la maire de Los Angeles, ou à la chef des pompiers de Los Angeles, et pas par rapport à leur capacité de travail, mais plutôt parce que la maire de Los Angeles est noire, que c'est une femme, et que la chef des pompiers de Los Angeles est également une femme, et c'est la première d'ailleurs, et représente aussi la communauté LGBTQ+, parce qu'elle s'affiche avec sa femme dans les médias. Donc tout ça, voilà, ça éloigne en fait des sujets importants, et je reviens à la sensibilisation, qui fait que ces feux, en fait, dans des zones urbaines et ou périurbaines, ils sont déjà arrivés. Notamment, il y a eu un grand feu à Chicago en 1871. Il y a eu un grand feu à San Francisco en 1906. Et ça avait déjà remis en question les outils d'aménagement urbain. Mais en fait, après, avec l'augmentation de la population, la hausse des prix du logement, il y a eu cet étalement périurbain et aussi... Il y a tous les discours autour du feu qui fait qu'on n'a pas forcément conscience que c'est important de faire en sorte que sa maison puisse devenir, comme on dit, fireproof. Donc ça veut dire respecter la sécurité incendie. Et d'ailleurs, en petite anecdote, un des feux, en 1991, il y a eu un feu à Oakland. Et la maison d'un jeune concepteur de jeux vidéo qui s'appelle Will Wright a brûlé. Et en fait, c'est à partir de cet incident qu'il a conçu le jeu des Sims. En se disant, je vais refaire ma vie. Et il a eu cette idée du coup de faire les Sims. Donc ça vient de là.
Le feu a des fois des conséquences pas si néfastes.
Oui.
Merci.
Enfin, voilà.
Merci. Oui, donc en fait, finalement, ce qui apparaît dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le réchauffement climatique. Mais pas uniquement, il y a aussi plein d'autres causes qui mènent à ces feux, c'est ça ?
Oui, c'est ça, et c'est là aussi qu'il faut vraiment faire la distinction entre les types de feux, enfin les feux de forêt, où dans, bah, cet été, par exemple, il y a eu énormément de feux au Canada, qui étaient des grands feux de forêt, et là, ce qui est remis en question, bah, c'est souvent l'aménagement de la forêt, le fait qu'on a supprimé le feu des forêts pendant des années, depuis les politiques de suppression des feux extrêmes, qui venaient d'ailleurs des États-Unis. Mais par contre, quand il s'agit des feux en zone urbaine ou périurbaine, là, il faut se concentrer plutôt sur l'aménagement, les codes de construction, qui sont très difficiles à faire passer dans la mentalité, parce que en soi, c'est vrai qu'une maison tout en béton, avec 3 mètres tout autour en béton, sans plantes, sans rien, ça donne pas très envie, ça se vend moins cher. Et ça remet en question toute en fait une culture de l'aménagement de la ville et de la zone périurbaine, des suburbs aux États-Unis, quoi.
Mais du coup, là, ça vient un peu en contradiction avec l'idée que l'artificialisation des sols, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Enfin, comment on peut combiner l'objectif d'arrêter d'artificialiser les sols pour limiter aussi le réchauffement climatique et du coup, bétonner parce que c'est ce qui ne brûle pas. Moi, j'y vois un peu une contradiction, je ne sais pas si tu as la réponse.
Bah, en fait, là, il y a plusieurs... C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment multiplier les sources quand on se renseigne sur ça, parce qu'il y a plusieurs idées, plusieurs débats, mais justement, la personne dont tu te parlais, Mike Davis, après les feux de Malibu, il a écrit un essai qui fait un peu tout drôle à lire maintenant, qui s'appelle « The Case for Letting Malibu Burn ». Donc, et si on laissait Malibu brûler, quoi ? Et en fait, la conclusion de cet essai, c'est que si ça brûle, il faut partir. Il ne faut plus reconstruire au même endroit. Et donc, en fait, ça répondrait peut-être à l'enjeu d'artificialisation des sols. C'est juste, en fait, ne plus construire à ces endroits-là. Mais ensuite, quand tu as des milliers de personnes dont la maison a brûlé, qui se retrouvent sans logement, il faut choisir entre reconstruire le plus vite possible de la même manière qu'avant, avec les mêmes matériaux qui ne sont pas chers, donc le bois, ou déplacer des millions de personnes, mais où ? Parce que la Californie, c'est un désert de base, et on a construit un jardin dessus, en soi, pour faire un peu de poésie.
Et du coup, si on devait donner un top 3 des conseils à donner à un maire ou une maire française pour pas que son village y brûle, c'est quoi le bon conseil du bon village Sims qui ne brûle pas ?
ça en plus, ça peut fonctionner pour partout. Alors je m'étais notée pour être sûre.
C'est trop bien, on a des conseils pour le monde entier, la Radio Campus Paris International.
Puisque je rappelle, nous sommes écoutés dans le monde entier, d'ailleurs, jusqu'aux États-Unis.
C'est ça, évidemment. Les conseils qu'il peut y avoir, c'est déjà avoir des itinéraires d'évacuation, de pas avoir des... Si, par exemple, il y a une route sans issue, être sûr qu'elle soit assez large pour qu'il y ait un camion de pompiers qui passe, pour que s'il y ait plusieurs personnes qui partent, elles réussissent à quitter la municipalité, la ville, la commune, par plusieurs points de sortie. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Paradise. Il y avait que 2 points de sortie et il y a eu des embouteillages et des personnes... sont malheureusement décédés dans ces embouteillages parce qu'il n'y avait pas assez de points de sortie. Les autres choses, c'est justement faire en sorte que sa maison soit protégée. Et donc là, il y a des choses très simples comme nettoyer ses gouttières pour pas qu'il y ait de la végétation à l'intérieur qui puisse facilement prendre feu. Ne pas avoir du bois coupé pour le chauffage juste à côté de la porte d'entrée. Faire en sorte que son jardin y ait une porte d'entrée, une porte de sortie si on a envie de faire de la prévention.
Et sortie dans le jardin, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça, que ce soit pas complètement fermé et qu'on puisse y accéder seulement par la maison ou l'immeuble, qu'il y ait un accès depuis la rue. Et puis finalement, sensibiliser aussi ses voisins, parce que c'est ce qu'on a vu là dans les maisons. Il suffit que dans un quartier, il y ait une maison ou deux qui soient très inflammables, ça mettra le feu à tout le quartier. Donc c'est vraiment quelque chose aussi de collectif que je pense en France, ça pour le coup, c'est différent de la mentalité aux États-Unis. C'est très sur l'individuel, l'individualisme de je suis capable de faire ce qu'il faut moi-même. Mais voilà, pour les petits conseils.
Merci beaucoup, Clara Aubonnet. Alors, on retient, hein, si vous êtes un ou une mère, vous mettez des routes, s'il vous plaît, il faut qu'elles soient larges, vous nettoyez les gouttières, vous mettez des portes et vous évitez les tas de bois à côté de la porte d'entrée. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je rappelle, hein, vous êtes doctorante à l'IFG. Et merci, Maïwenn. Nous sommes le mardi 21 janvier sur la matinale de 19h et tout de suite, le Flash Info de Juliette.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Hier, lundi 21 janvier, tu l'as dit Guillaume, c'était l'investiture de Donald Trump et c'était génial.
Non.
Non. À peine investi, Donald Trump signe ses premiers décrets anti-immigration.
Et comment ne pas parler de ses fabuleux invités ?
Mais Elon Musk, bien sûr, l'idéaliste qui réalise ses rêves. Il a récemment apporté son soutien à l'AFD, le parti d'extrême droite allemand. Donc j'ai bien peur que son salut nazi d'hier soir ne soit pas un mouvement de danse contemporaine.
Guerre au Proche-Orient.
Une opération militaire est actuellement en cours pour, d'après Netanyahou, éradiquer le terrorisme. Le chef d'état-major de l'armée israélienne démissionne à cause de, je cite, « l'échec du 7 octobre ». Mais pars, on ne te retient pas. Tandis qu'après la trêve, les Gazaouis tentent de retrouver leur foyer au milieu des ruines.
La mention Abbé Pierre sera enlevée du logo de la fondation.
Cette décision a été votée à 91% par le mouvement Emmaüs aujourd'hui. Accrochez-vous à cette info parce que c'est la seule bonne nouvelle. Et pourtant, je parle de l'Abbé Pierre visé par 33 accusations de violence sexuelle. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Et Bertrand Blier est mort à l'âge de 85 ans.
Oui, celui qui disait « la vie est une belle chose, mais avec un très mauvais scénario ». Et il avait raison.
Le journal Libération cesse à son tour son activité sur le réseau social X.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Et François Bayrou est mort.
Non, Guillaume, mais souhaite exprimer deux textes, un sur les soins palliatifs et un autre sur l'aide active à mourir. C'est pareil, François, si tu veux partir, on ne te retiendra pas.
Et on n'a pas trouvé beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui.
Oui, mais si vous aussi vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde, on peut se dire rendez-vous tous et toutes dimanche 26 janvier à 14h, place de la République pour une manifestation féministe et antifasciste.
Et 19h33 sur la matinale de 19h, on est en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite une pause musicale avant le zoom sur le documentaire Château Rouge. You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know.
I said, I smell in the air as a dripping rose.
You can be the one for me.
Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. Your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Before it's hardened.
With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. Is all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love. Made it go. I'll never love her. Another one. Another. It's gotta be love, I said it.
C'était Chad Faker de Gold. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et il est 19h38.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et tout de suite, le Zoom avec Garance. Bonsoir Garance.
Bonsoir. Alors nous sommes en compagnie de la cinéaste Hélène Milano que nous recevons à l'occasion de son dernier film documentaire Château Rouge qui sort en salle donc cette semaine. Et qui faisait partie notamment de la sélection de l'Acide 2024 au Festival de Cannes. Bonsoir Hélène Milano et merci d'être avec nous dans les studios de Radio Campus Paris. Donc avant de parler plus précisément de Château Rouge, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours de cinéaste. Donc je précise que vous êtes également actrice et metteuse en scène. Et avant Château Rouge, vous avez réalisé 3 courts-métrages de fiction, 3 documentaires, notamment pour France Télévisions. Et 2 longs métrages documentaires, donc Les Roses Noires en 2012 et Les Charbons Ardents en 2018, qui traitent comme Château Rouge, chacun à leur manière, de la période de vie très particulière qu'est l'adolescence. Donc chez les jeunes filles en banlieue parisienne et à Marseille pour le premier, puis chez les jeunes garçons qui grandissent en lycée professionnel pour le deuxième. Vous y explorez notamment la blessure liée au sentiment d'exclusion, la place sociale et le monde du travail. Donc ce sont des thèmes que l'on retrouve dans le monde du travail qui attend ses adolescents, que l'on retrouve dans le Château Rouge. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord comment vous en êtes arrivé au cinéma documentaire, savoir depuis quand est là ce désir de filmer le réel et qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Bonsoir. En fait, j'avais pas un plan prédéfini. C'est-à-dire que moi, je viens du théâtre et j'ai commencé mon parcours effectivement en mettant en scène des textes. Et après, j'ai continué en commençant à explorer l'écriture de plateau. Et là, j'ai commencé à écrire. Puis j'ai écrit un projet et je me suis rendu compte que j'écrivais pour le cinéma. Donc, je suis passée au cinéma. Et puis, pareil pour le documentaire, c'est-à-dire que je m'interrogeais. J'avais envie de faire un film qui interroge l'amour et le temps. Et à ce moment-là, en même temps que j'étais en train d'écrire, je me suis dit, mais c'est pas du tout une fiction, c'est un documentaire, j'en ai jamais fait, je vais le faire. Et c'est comme ça, en fait, mon parcours, il s'est fait comme ça.
Très naturellement.
Et en essayant de suivre mes désirs et la nécessité que je sentais à ce moment-là de raconter cette histoire-là.
Et le fil rouge donc, de vos 3 documentaires dont on parle aujourd'hui, donc c'est l'adolescence. Et est-ce que c'est une période qui vous a particulièrement marqué, vous, personnellement?
Je pense que oui. Mais après, je crois que dès le début de mon travail, quand je mettais en scène, les questions liées autour de l'émancipation, comment construire son chemin. Alors, l'émancipation, c'est l'affaire d'une vie. Comment se défaire des normes, comment se défaire des cases où on se sent assigné. On sait bien que ça nous rattrape tout le temps.
Mais à tous les niveaux.
Ouais. À tous les niveaux. Mais c'est vrai que la beauté de la période adolescente, c'est à la fois tous les possibles. Et aussi ce mélange et de grande puissance d'énergie et de fragilité, puisque si on a en tête le complexe du homard, qui était le concept de Dolto, c'est l'idée que pendant l'adolescence, ben, on perd la carapace qu'on avait, mais pendant un temps, avant d'avoir celle d'adulte, ben, on est complètement démuni. Et cette fragilité, je la trouve non seulement très belle, mais vraiment, elle contient aussi tous les possibles. C'est tous ces paradoxes-là, moi, je trouve que c'est vraiment une période fascinante.
Et donc, votre film est tourné exclusivement dans l'enceinte du collège Georges Clemenceau à la Goutte d'Or, donc proche du métro Château-Rouge. Et on y suit la vie d'une classe de 3e tout au long d'une année scolaire, mais aussi d'une équipe éducative qui tente d'accompagner au mieux les élèves dans leur apprentissage, dans leur choix d'orientation, les aider à surmonter de multiples obstacles. Mais Georges Clemenceau n'est pas n'importe quel établissement. Donc, je suppose que c'est un établissement de réseau d'éducation prioritaire.
Oui, absolument. C'est un REP+.
Donc, qui concentre les difficultés, notamment sociales et économiques. Donc, pourquoi c'était important pour vous de tourner un film à Château-Rouge ?
Mais parce qu'en fait, c'est la suite de mon travail. Quand j'ai fait Les Roses Noires, je voulais vraiment faire un film qui... met en scène des jeunes filles qui sont des quartiers populaires. Et là, j'avais choisi d'être dans plusieurs endroits en France et recréer une choralité comme un cœur de jeunes filles antiques, et recréer un corps là où il y a beaucoup de solitude. Quand j'ai fait Les Charbons Ardents, pareil, j'ai voulu travailler toutes ces questions-là. Et j'ai été en lycée professionnel et plutôt dans des lycées où il y avait effectivement des filières avec des jeunes gens qui venaient de quartiers populaires. J'avais très envie, puisque je voulais faire un film sur la construction du masculin, mais leur laisser toute la place. Et en fait, c'était une continuité assez cohérente pour moi. Cette fois-ci, je voulais un lieu unique. Embarquer comme on embarque dans un bateau pour un voyage pendant un temps. Et je trouvais que continuer à mettre en lumière les jeunes gens des quartiers populaires qui ont, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, un certain nombre d'obstacles à surmonter. Parce que c'est un quartier où les familles sont souvent fragilisées, ou familialement, ou socialement, ou économiquement. Et en fait, dans leurs apprentissages, ben, c'est aussi tout ça qu'il faut arriver à gérer, à dépasser, pour être en capacité de construire son chemin, d'apprendre. Alors, toutes ces mises en lumière, ben, ça me tient à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, s'il y a des choses qui doivent nous révolter ou qu'on ne doit pas accepter, c'est le fait qu'on n'ait pas encore réussi à faire en sorte qu'il y ait une véritable égalité des chances au sens de non-reproduction des classes, quoi. Et ça passe quand même beaucoup par l'école. Donc, il y a encore beaucoup de travail pour que l'école s'interroge et trouve des solutions pour que ce plafond de verre
puisse exploser.
Mais ouais. Oui.
Mais notamment, il y a un des élèves, là, Bilal, qui dit au début du film « L'école, c'est pas fait pour tout le monde ». Et du coup, c'est l'impression aussi que les dés sont pipés d'avance. Mais de l'autre côté, on voit des enseignants, une équipe pédagogique particulièrement soudée et qui se démènent et font de leur mieux pour que les élèves ne lâchent rien, pour déjouer justement la violence du système, donc que les élèves ne décrochent pas en cours d'année. Donc pour moi, c'était important de mettre en balance ces deux perspectives. Parce que finalement, il y a aussi une forme d'espoir dans cette... équipe pédagogique.
Absolument. Parfois, le public que j'ai pu rencontrer en avant-première me dit « Mais est-ce que vous avez encore de l'espoir ?» J'ai dit « Oui, tant qu'il y aura des gens pour chaque jour se lever, s'engager, se battre de tout leur cœur pour combattre tous ces déterminismes, ben voilà, nous avons des raisons d'espérer qu'à un moment donné, les choses avancent. Et puis, dans l'accompagnement, effectivement, des jeunes gens, bah, c'est très, très riche, très important, et je voulais mettre ça en lumière. Mais c'est aussi parce que cette équipe est irréprochable, impeccable, que vraiment, ça redonne, ça remet au cœur qu'est-ce que c'est que le fait d'être un enseignant, un accompagnant, etc. Mais ça révèle aussi que le système contient en soi une violence, et que cette violence, eh ben, elle est infligée par quelque chose qui est structurel et qui exerce aussi une violence sur les adultes parce qu'eux, ils se retrouvent avec une pression de que chacun puisse répondre à cette injonction. Et tout ça crée un système qui n'est pas juste du tout.
Et donc, un des élèves dit justement, à un moment du film, ils ne nous ont jamais dit « vous pouvez pas », mais en réalité, on sait qu'on ne peut pas. Donc, on voit le stress que ça génère, les désillusions, le découragement. Les élèves qui trouvent que 15 ans, c'est trop jeune pour faire des choix aussi déterminants. Mais pourtant, et donc il y a beaucoup de joie dans ce film, de rire, notamment une scène de danse. Oui, ça vous avez un peu répondu, mais vous refusez de céder à la fatalité finalement de renoncer à l'espoir.
Oui. Et ce mot de fatalité, en fait, quand j'ai fait Les Charbons Ardents, j'avais été très touchée par la grande solitude dans laquelle je trouvais beaucoup de jeunes gens. D'abord, souvent parce qu'ils ne partagent pas ce qu'ils ressentent, parce qu'ils protègent leurs parents aussi. Mmh. Ils n'ont pas envie que tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils ressentent, puisse éventuellement être un souci en plus. Donc, ils n'ont pas tellement d'espace de confidence, ils sont assez seuls. Et ces cicatrices que j'avais perçues, par rapport au fait que, quand il y a un chemin qui est choisi et que c'est un vrai désir, je veux faire cuisinier, je vais choisir la voie. On voit qu'ils sont en réussite et puis qu'il y a quelque chose qui épanouit. Mais quand c'est par défaut, c'est des vraies cicatrices.
Et on voit que la question de la santé mentale revient beaucoup aussi, voilà. Avec l'accompagnement de la psychologue scolaire notamment.
Oui, et donc du coup, il s'agit quand même de résoudre toutes ces blessures. Et de faire en sorte que ça soit pas une fatalité. Ces jeunes gens, ils vont construire leur chemin, ils sont résilients. Et malgré le fait qu'effectivement, ils ont dû affronter cette injonction à 14 ans, 15 ans, de choisir un chemin alors qu'ils sont dans la découverte totale, ça n'a pas de sens en fait. Malgré tout, ils construiront un chemin et ils construiront leur liberté. Mais nous tous, on a bien à s'interroger sur est-ce que vraiment, aujourd'hui, notre institution n'a pas un certain nombre de questions à se poser.
Et justement, comment est-ce qu'on crée un lien de confiance en tant qu'adulte, mais aussi en tant que cinéaste ? Quelle posture vous avez adoptée ? Quel lien ? Quel rapport ? Comment on instaure finalement une familiarité ? Il y a beaucoup de moments de plus réflexifs et introspectifs. Comment on arrive à cette intimité-là ?
Je crois que je le dis souvent, mais mon meilleur ami, c'est le temps. C'est-à-dire vraiment prendre ce temps-là à chaque fois, de passer beaucoup de temps dans l'établissement, de rencontrer les uns et les autres, de ne pas imposer d'idées, de vouloir aller vite, tout ça, qui pourrait être très... vraiment se retourner contre l'esprit du film et que, c'est une aventure et puis l'écoute. Et à ce moment-là, on bâtit une relation de confiance qui permet... qu'il nous fasse ce don quand même que moi je trouve hyper beau et qui permet aux spectateurs de trouver sa place dans le film, c'est l'authenticité dans laquelle ils ont été capables d'aller, avec une acuité, moi, qui m'a épatée. Et cette authenticité, c'est leur force. Et ils sont beaux là-dedans, dans cette authenticité-là. Mais ça ne peut pas se faire comme ça.
Et alors, sur cette question du temps, hélas, le nôtre touche à sa fin. Juste pour conclure, avant de nous quitter, où est-ce qu'on peut voir votre documentaire, si on veut le voir ?
Et donc à partir de demain dans les salles, puisqu'il sort demain, à Paris c'est l'UGC Léal, l'Arlequin, et après il y a le 104 à Pantin, il y a le Luxy à Ivry et il y a aussi le Select à Antony. Il y aura aussi le Saint-André-des-Arts Festival Mediapart dimanche et après d'autres salles qui vont venir rejoindre à Paris et puis sinon dans plein d'autres villes en France.
Eh bien, merci beaucoup Hélène Milano. Je rappelle donc votre documentaire qui sort donc s'appelle Château Rouge et merci Garance pour l'animation de ce Zoom. 19h49, dans quelques instants, une chronique de Juliette, mais avant, une dernière pause musicale, on écoute un titre de Rolling Stones, ça s'appelle Jordi.
Devant, derrière, à ma droite et à ma gauche. Je t'échangerai pour rien au monde. T'es la seule sur des millions. Sur des millions. Sur des millions. Insouciant, t'es sexy. On te veut chez Iblis. Mais tu finiras chez Jordi. Et je sais tout.
Et on écoutait Jordi de Rolling Stone, 19h53, et tout de suite la chronique de Juliette.
La matinale de 19h.
Et donc plus que 5 minutes avant la fin de cette émission. Et donc bonsoir Juliette.
Salut à tous et à Salut. Toutes. J'espère que vous allez bien. Ne me répondez pas parce que j'ai vraiment pas l'énergie là, je suis fatiguée. Aujourd'hui j'ai besoin qu'on parle de moi.
Mais c'est pas déjà ce qu'elle fait à chaque fois, cette cruche.
J'ai entendu la cruche, hein, merci. Mais non, mais c'est vrai, vous avez raison, je parle que de moi. Et en plus, c'est même pas intéressant. Bon, mais par contre, c'est intéressé. Voilà, je l'avoue, c'est complètement intéressé. Bah, les masques. Putain, je déteste cette expression. Putain, les gens qui disent ça, mais... Oh, mais en plus, cette expression, elle est débile. J'imagine vraiment un mec faire genre... Oh, j'ai fait tomber le masque et vous n'avez rien vu. Mais trou de balle, on savait que t'avais un masque. Ah ouais, c'est parce que je suis un homme, c'est ça? Non, c'est parce que ton masque, il est vert. Ah, ouais, ok. Non, là, j'ai pas encore commencé à parler de moi. Parce que ce serait vachement chelou, hein. Bon. Je dis intéressé, pourquoi? Oui, pourquoi? Ouah, trop fort, les gens entendent. Parce que venir ici chaque semaine, c'est me forcer à écrire. Par exemple, vous vous rappelez la vanne que j'avais faite le 21 novembre?
Ouais, ouais, c'est dans la tête, là.
Ouais, et bah, justement, celle-là, elle sera dans mon futur spectacle.
Ouais. Ouais.
Merci. Et le spectacle, il va s'appeler Opportuniste, moi? Alors,
oh,
ça vous plaît?
Complètement.
Trop bien. Et bah figurez-vous que pour le moment, ça plaît pas à tout le monde. Oh. Et c'est là que la chronique commence. En gros, je teste des bouts de sketch de 5 minutes le soir dans des comédie clubs à Paris. Et c'est hyper dur parce que je m'entraîne seule dans ma chambre face à un mur et j'ai juste la sensation d'être un énorme brouillon. Un peu comme chacune de mes chroniques, on peut se le dire. Tu peux le dire, Guillaume. Vas-y, dis-le.
Je le dirai pas.
Ok. En tout cas, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête un des soirs de décembre, mais j'ai décidé de lire un conte devant le public. D'après vous, bonne ou mauvaise idée?
Très bonne idée.
Mauvaise idée, très mauvaise idée. Contexte, je l'avais écrit la veille. Il ne faisait rire que moi, mais je pouvais pas le savoir qu'il faisait rire que moi tant qu'il n'avait pas été testé devant autre que ma mère en FaceTime. D'ailleurs, coucou maman, merci d'être la seule auditrice de la matinale de 19h. Bref, du coup j'ai voulu tester le compte. Mais pour que vous ayez bien l'image, Imaginez, c'est un mardi soir à 21h dans un comédie club, donc plutôt l'arrière d'un bar, avec 8 personnes dans le public, dont les 3 humoristes qui passeront après moi et 3 humoristes qui sont déjà passés et qui sont en train de mettre la photo de leur passage en story pour dire à tout le monde « Regardez, j'ai la sensation d'avoir un métier. » On galère, ok. Donc moi, je monte sur scène avec mon petit compte, mais après qui ? Après, et alors, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que c'est toujours les mêmes gars qui ont des scooters ? Trop drôle, Maurice. Moi, j'arrive et je dis, c'est l'histoire de Jean Escalot. Jean Escalot était ministre, mais ce n'était pas un ministre comme les autres. Eh ben, je peux vous dire que ce soir-là, Maurice était vachement plus drôle que moi. Donc, je sens que le sketch marche pas du tout. Ok. Mais pas parce que j'ai des dons de lucidité hein, que je vois ça, c'est vraiment pas. C'est juste parce que le silence, en fait, ça paraît très très fort quand le but, c'est qu'il soit rempli de rire. Et j'aurais aimé vous dire que je ne me suis pas démontée, mais c'est pas le cas. Alors de stress ou de désespoir, on saura jamais, je lâche le micro, il tombe, bruit horrible, je m'excuse et j'essaye de le ramasser. Et en me relevant, je me cogne la tête contre le pied de micro. Bah, ce sera le seul rire que j'ai eu ce soir. Que ce soir-là. Mais bon, de toute façon, je m'en fiche, ok. Je sais qu'il est super drôle, ce conte.
Oui, Juliette, il est super drôle. Merci. Là, je rien, continue, j'adore ce conte. C'est quoi
c'est
la fin de ce conte ?
En fait, je vais vous, du coup, tenter de rassurer mon ego en vous le faisant la semaine prochaine. Et donc, pour le bien de ma santé mentale, vous serez obligés de rire.
Ouais.
Voilà, et je peux vous faire un Lydia si besoin. Fais ça en secret. Merci de m'avoir écouté.
Et 19h57, merci beaucoup Juliette et plus qu'une minute pour vous remercier d'avoir écouté ce live de Radio Campus Paris, de remercier tous nos amis qui ont participé à cette émission. Merci Juliette, je le disais à l'instant, merci Maïwenn pour la coordination de cette émission avec l'aide d'Alice et merci encore Maïwenn pour l'interview Zoom et puis merci encore Alice pour l'organisation de l'interview Zoom et merci Garance pour le second Zoom et merci Pablo pour la réalisation. Et merci Céline et Isnel dans le public et tout le reste du public que j'ai pas eu le temps de remercier. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Et voilà, et la radio ça continue sur Radio Campus Paris jusqu'à 5h30 sur le 93.9 et tout le temps en DAB+. Portez-vous bien, bonne soirée et à très vite.
Bisous.